partir de 15h. France Inter. La différence.
Daniel Mermet est là, et c'est là-bas si j'y suis.
Voici quelques phrases de Antonio Gramsci, 1891-1937. Le vieux monde meurt. Le nouveau monde tarde à apparaître. Et dans ce clair obscur, surgissent les monstres. C'est bien d'actualité, ça. Hein, je vous embrasse très fort.
Nous sommes devant un tableau noir et une longue équation à résoudre. À l'issue de ce premier tour, le score à deux chiffres du front de gauche écarte la recomposition des socialistes avec le centre. Le Front National se pose en solution à la dictature des marchés financiers, alors qu'il en est la roue de secours. Au second tour, pour certains, nous irons voter pour battre la droite, même si nous savons que droite et socialistes vont s'agenouiller devant les marchés financiers. La politique du grand capital a gagné la première manche. Il reste la seconde manche, le 10 et 17 juin, pour peser et faire gagner un plan B à tous les traités européens construits sur la concurrence et le dumping, avec la complicité de la social-démocratie européenne. Régis de Nîmes.
Bonjour, là-bas, si j'y suis. Pour ceux qui ont suivi l'émission Tierra y Libertad du jeudi 12 avril 2012 sur l'occupation de la finca de Somonte en Andalousie, voici les toutes dernières nouvelles. Ce matin, jeudi 26 avril 2012 à 6h, la Guardia Civile, appuyée par un groupe d'action antiterroriste très déterminé, a procédé à l'expulsion de la douzaine de personnes qui dormaient dans la ferme occupée depuis le 4 mars dernier. Il est clair que toute résistance était impossible et nous nous regroupons actuellement pour étudier la meilleure façon de reprendre la lutte et l'occupation de cette terre que nous avons commencé à cultiver. Les contacts sont en ligne sur la page de l'émission et pas mal d'infos tournent actuellement sur Internet. C'est une lutte juste et exemplaire, toute aide est la bienvenue. Vous pouvez me contacter, Florence à Somonte, c'est un téléphone espagnol avec l'indicatif 34 653 304 692. À bientôt.
Bonjour, je suis Emmanuelle, éditrice du livre Intergouvernement. Vous vous souvenez des émissions sur le printemps français? Alors, je laisse un message sur le répondeur pour inviter tous les AMG à venir participer au deuxième conseil des ministres de l'intergouvernement qui se tiendra mercredi prochain, donc le 2 mai, au théâtre du Grand Parquet, 20 bis rue du département dans le 18e à Paris, à 19h. Le thème de la soirée sera les 20 mesures pour sortir de la crise économique, sociale, écologique et démocratique. Après une brève présentation des mesures, le débat sera ouvert entre les ministres et les citoyens. Et vous aurez aussi la joie de retrouver votre animateur préféré, Daniel Mermet, qui nous fait l'honneur d'introduire cette soirée. Voilà, vous avez toutes les informations. Donc le 2 mai, si regarder le débat télévisé entre les deux candidats du second tour ne vous emballe pas vraiment, eh bien venez nous rejoindre. N'hésitez pas à faire passer le message, l'entrée est libre et gratuite pour tous. À très bientôt. C'était Emmanuel des éditions du Muscadier.
Vous m'avez fait pleurer, monsieur Morel. Moi, la fille de cheminot, mon père est là-bas au cimetière, après avoir attendu vainement que 36 revienne. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'étais gênée de ses opinions. À mon reproche, idiot, mais t'es communiste? Il m'avait répondu, fier, non, anarchiste. Ça avait cloué le bec à la gamine que j'étais. En 81, j'étais son génie de la Bastille, partageant ce moment avec un autre qui pensait aussi à son père. Ce matin, vous m'avez fait pleurer, monsieur Morel. En souvenir d'Achille, le barbouillé, qui a fait les trois bits à la gare du triage du lundi pendant presque toute sa vie. C'était Aude Michaud de Seine-et-Marne.
La bonne radio, c'est celle qui donne du talent aux auditeurs. Merci pour ces messages. Merci à cette auditrice qui est dans le sud de l'Andalousie et qui nous donne des nouvelles de Somonte. Vous savez, cette occupation de cette finca avec des paysans, des travailleurs paysans de la région qui occupent cet endroit et qui, nous dit-elle, cette auditrice sont fait déloger. Alors je répète le téléphone qu'elle a donné, c'est le sien je pense, et elle pourra vous donner des nouvelles, et c'est ce qu'elle souhaite en tout cas, et vous donner peut-être des coordonnées pour soutenir ces travailleurs en lutte. Donc je le répète, 34, ça c'est l'Espagne, et 653 304 692, 653, 304, 692. Et puis effectivement, oui, l'altergouvernement, ils m'ont coincé. J'ai promis de venir. J'espère qu'on va passer une bonne soirée, ce 3 mai, la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on est très soucieux à la base, j'y suis, de ces élections. Ça nous tracasse. On se dit, oh là là, quand les socialos, si jamais, si par malheur, les socialo-communistes reviennent, il va falloir partir. Enfin, un certain nombre de Français vont partir. C'est évident, comme en 81, on a montré dans les reportages de Charlotte Perry. En tout cas, vous avez vu à Genève, à Lausanne, on vous attend. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'accueil de ces Français qui fuient les chars soviétiques. Et aujourd'hui, on continue cette balade en Suisse. Avec des Français qui sont là depuis longtemps, qui vivent là heureux, mais alors heureux, et qui ont quitté la Suisse depuis une quarantaine d'années. Et Charlotte leur a demandé, mais comment d'ici, d'où vous êtes, vous voyez les élections françaises? Voilà, ça s'appelle « Heureux comme en Suisse ». On mangerait par terre en Suisse. On mangerait par terre tellement que c'est propre. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
À propos de Sarkozy, ce Français de pure souche, qui cherche à Francfort son modèle pour une France forte, Merkel par-ci, modèle allemand par-là. Mais alors, pourquoi se garde-t-il de ne jamais parler du modèle allemand en ce qui concerne le vote des étrangers ? Entre autres les centaines de milliers de Turcs qui, depuis plus de 30 ans, jouissent du droit au vote aux élections locales. En Allemagne, cela ne fait plus problème. Bravo pour Sarkozy, président modèle du pays des droits de l'homme, où certains ont le droit de se faire tuer pour la France et exploiter au boulot, mais pas celui de voter aux élections locales. Salut tout le monde.
Monsieur Raffarin se vante d'avoir réussi à imposer sa réforme des retraites en 2003. Je suis une des nombreuses victimes de la réforme Raffarin-Fillon de 2003 et je travaille 3 ans de plus que ce qui était prévu au début de ma carrière. En 2003, la communication de Monsieur Raffarin s'est servie jusqu'à la nausée de l'affirmation suivante. Vous devrez travailler plus longtemps parce que vous vivrez plus vieux. Votre espérance de vie à la naissance augmente régulièrement de 4 mois tous les ans et donc de 1 an tous les 3 ans. Mais sa communication nous a bien caché au moins 2 faits. Le premier, c'est que pour un futur retraité, c'est le gain de longévité à partir de 60 ans qui a de l'intérêt. Or, ce gain n'est plus que de 2 mois par an au lieu de 4. Le deuxième fait passé sous silence, c'est que le gain de longévité après 60 ans s'accompagne inéluctablement d'une augmentation de la dépendance et des handicaps avec l'âge. Mais les plus visés par cette escroquerie intellectuelle sont les jeunes générations. On leur a fait croire que l'espérance de vie à la naissance, qui n'est qu'un outil statistique pour mesurer la mortalité moyenne, pouvait à coup sûr prédire l'avenir à long terme, alors qu'il ne sert qu'à mesurer la mortalité moyenne du moment. Dit autrement, pour les Français, l'espérance de vie à la naissance calculée en 2012 ne nous dit absolument rien, mais alors rien du tout sur l'espérance de vie des bébés nés en 2012, justement.
La Suisse est un petit pays, ils se protègent. On a des abris anti-atomiques, ça vous savez.
Moi j'ai un abri ici. Hein.
Vous avez un abri ici, anti-atomique?
Chaque villa a son abri anti-atomique.
Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le mode de vie ici en Suisse par rapport à la France?
Alors c'est le calme, la tranquillité. Tout est tracé, on sait exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire.
C'est droit, c'est net, c'est clair, c'est droit, c'est net, c'est clair, c'est... On est plus sûr ici, on se sent plus en sécurité. Les gens sont disciplinés, donc c'est sécurisant, c'est... Chacun contrôle tout le monde.
Là, ce qu'on sent, ça fait partie de la Suisse aussi, là.
Ah oui, ça sent...
Il purine. De temps en temps, ça sent la merde.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas où je suis avec Charlotte Perry. Heureux comme en Suisse. On mangerait par terre.
Flight number 2, arriving from New York.
Prochain arrêt, Montreux.
Bon, alors là, je me trouve à la gare de Montreux. Je viens d'arriver. Montreux, c'est à l'extrême est du lac Léman, en face de Genève, en fait, de l'autre côté du lac. Montreux, c'est une ville qui est célèbre pour son festival de jazz. C'est une ville magnifique. Toute la région, d'ailleurs, est magnifique. On l'appelle la rivière à vaudoise. Et là, je suis venue à Montreux aujourd'hui pour rencontrer monsieur Jean-Jacques Poutrieux, qui a été pendant 20 ans le président de l'association française des Français de la rivière à vaudoise, qui est une association qui regroupe 250 familles, qui va fêter ses 120 ans. Et je vais le rencontrer pour comprendre comment les Français de Suisse perçoivent l'élection présidentielle française. Alors, il faut bien comprendre que la communauté française de Suisse est la plus grosse communauté française du monde. Il y a 150 000 Français qui vivent en Suisse, mais évidemment, tous ne sont pas de riches exilés fiscaux. On dénombre environ 2000 grosses fortunes françaises qui bénéficient du fameux forfait fiscal suisse, qui peuvent donc négocier leurs impôts avec le canton dans lequel ils vivent, mais les autres, eux, payent des impôts comme les Suisses. Alors, monsieur Poutrieux, il a exercé différentes fonctions politiques ici en Suisse pour la France. Il a été élu au consulat général de France à Genève. Il a été représentant à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est un peu comme l'Assemblée nationale en France, mais pour les Français qui vivent à l'étranger. Et il est installé en Suisse depuis plus de 40 ans.
Oh, il n'y a pas un papier qui traîne, hein. Oh, regarde ça. Il n'y a pas un mégot, hein. Comme c'est ciré ou c'est verni, ça? Oh, dis donc. Et puis alors, les prés, hein, ils sont bien au carré. Ils doivent les finir avec des petits ciseaux. C'est manucuré. Le paysage, il est manucuré. Vous avez compris, on est en Suisse. Bien organisé, la sécurité, la tranquillité, la propreté, la discipline et les abris anti-atomiques. On est en Suisse. Les voleurs de voitures, c'est une balle dans la tête et c'est très bien. Les minarets, on n'en veut pas. Mais il y a des Français, vous allez le voir, qui aiment ce pays vraiment avec de tout leur cœur. Et c'est avec eux qu'on va passer cette heure, une balade avec monsieur Poutrieux, Jacques Poutrieux et son épouse Arlette. Avec une question. Qu'est-ce qui doit le plus nous interroger? Le bruit des bottes ou le silence des pantoufles?
Mais pour bien comprendre ça, tu vois, faut être né.
Et si le soleil brille tous les jours de l'année, et s'il y a des nuages, c'est ceux du village à côté. Je te parle du pays où est née la nature. Ici, il n'y a que des vélos, ici, il n'y a pas de voiture. Toutes les rivières du monde prennent leur source ici. Toutes les montagnes du monde, elles ont grandi ici. Toutes les fleurs du monde, elles viennent naître ici. Ici, même la marée noire finit toujours blanchie. Ici y a pas de banque, on s'arrange entre nous. Ici y a pas d'impôts, on s'arrange entre nous. Ici y a pas de crime, on s'arrange entre nous. Ici pas de tourisme. Viens vite chez nous et cueille une petite fleur. Va chanter sur la montagne.
Attrape le bonheur.
Mais avant de partir, n'oublie pas surtout de reposer la fleur, parce qu'elle est à nous.
Alors maintenant tu la poses cette fleur. Tu la poses tout seul. Tu la
ton nom de bois marqué sur la fleur là. Alors tu files, Galinette.
Ici depuis 1000 ans, les bons mariages sont consanguins. C'est en faisant des sélections qu'on améliore le genre humain. Nos hommes sont solides, comme doivent être les hommes. Nos femmes, elles sont belles, comme doivent l'être les femmes. On vend pas aux Anglais, ni nos maisons, ni nos placettes. Ni aux Français, ni à personne. Nos maisons, nous on y reste, mais on sait faire la fête. On connaît le mot buvette, on n'est pas des alcooliques. On aime juste bien faire trinquette. La plus belle équipe de foot, c'est celle qu'on a chez nous. Les plus beaux alcotes, c'est ce qu'on a chez nous. La plus belle tolérance, c'est celle qu'on a chez nous. La bonne couleur de peau.
Oh,
viens vite chez nous et respire le bon air. Va chanter sur la montagne,
attrape le cancer.
Mais avant de partir, n'oublie pas surtout de recracher tout l'air, parce qu'il est à nous.
Oh, tu l'as vu ce caillou là? Bah tu as mis de la poussière dessus, alors tu l'enlèves. Et tu as pu plus doucement quand tu marches sur la montagne là. Tu vois, tu la tasses. Alors maintenant tu as compris, j'espère. Là où c'est le mieux, c'est là où c'est qu'on vit. Mais pour bien comprendre ça, tu vois, faut être né ici. Alors toi l'étranger, toi le paria, si tu viens ici, on t'ouvrira les bras. Mais pas que ça.
Voilà. Bonjour monsieur.
Finalement je suis descendu en voiture parce que mon épouse était partie chez le coiffeur. Et contrairement à l'habitude, ça a duré moins longtemps que prévu. Alors du coup je suis descendu en voiture.
Vous m'avez reconnu grâce au micro?
Oui, enfin je pensais que j'y allais voir quelqu'un arriver, puis je vous ai vu parler dans le micro, je lui ai dit, ça doit être elle.
Alors vous êtes installé ici depuis combien de temps?
42 ans.
42 ans?
42 ans, oui. 42 ans en Suisse, oui. Moi j'habite. Eh, la maison qu'on voit la plus haute, là, c'est le bout du village où j'habite.
Ah, là, moi, la maison blanche qui se dresse ouais, tout là-haut.
Moi, je suis encore derrière, derrière et au-dessus. Oh, c'est plaisant. On est dans une région plaisante, ça, c'est clair. Ça, c'est le train qui arrive de moi, de là où j'habite, la Chernay. Mais c'est le train qui vient de Gstaad. Il va jusqu'à Gstaad, Zweisimmen, Interlaken et Lucerne. Mais rien que des petits trains de montagne. Alors ça, c'est la différence fondamentale avec la France, c'est que tous ces trains... Ici, ils les gardent. Ils les gardent, ils les entretiennent.
Les anciens trains, c'est des vieux trains,
ah oui, ça. Vieux trains. Mais ça, c'est un train à crémaillère. Hein. Parce que c'est clair, ici, on est à 400 mètres, hein, et il monte à 2000. Il y a 1600 mètres de dénivellation sur très peu. Par exemple, lui, il arrête, moi, où je travaillais, là, à Glion, à l'école.
C'est hein? L'école de...
Une école de, d'hôtellerie. Une école de management hôtelier, pour être plus précis.
Elle est connue, non?
Très. Bon, les deux plus importantes, c'est Glion et Lausanne, quoi. L'école de Lausanne, l'école de Glion.
Et vous, vous travaillez à l'école de Glion?
Ah, je travaille plus. Non, non, c'est terminé, non. Non, non, j'ai arrêté en 2006. Puis je suis à la retraite.
Et vous voulez voir l'école?
Ah bah ouais, je veux bien, ouais.
C'est l'école.
Voilà, un homme chaleureux, un brave homme avec une belle paire de bacchantes. Il s'est occupé de cuisine très longtemps dans sa vie. Il va nous faire découvrir voilà, son coin. Il nous reçoit très chaleureusement. Et il nous emmène tout de suite dans cette célébrissime école d'hôtellerie de Glion où il faut avoir les moyens pour y faire des études. 50 000 euros par an. Et oui, mais ça forme les grands chefs. Une fierté pour M. Poutrieux.
Bonjour.
Bonjour. Alors là, on
va essayer d'aller la voir, la gouvernante. Je ne sais pas si elle est là.
Housekeeping Landry.
Salut! La gouvernante, c'est une Française, c'est pour ça que je vais vous la présenter.
Bernadette.
Salut, t'es la gouvernante.
Oh, bonjour!
Je te présente, Vinicia. Madame ou mademoiselle, j'en sais rien.
Mademoiselle.
Mademoiselle Perry.
Bonjour, enchantée.
Madame Marcato.
Journaliste à France Inter.
France Inter.
Oui.
Que nous voulons l'honneur de votre visite à Glion avec un.
La maison,
je
vous
ah,
d'accord.
Alors, juste, vous faites quoi ici à l'école Glion?
Je suis la gouvernante générale. C'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est entretien, équipe d'entretien, nettoyage, surveillance des étudiants, décoration.
Et moi, j'étais venue pour faire un reportage sur la campagne présidentielle française vue par les Français en Suisse. Vous suivez, vous, un petit peu?
De loin, parce que je trouve que c'est assez catastrophique. Alors, je ne veux pas prendre de risques, alors je reste loin, éloignée. La France ne donne pas une bonne image à l'étranger, d'elle-même. Trop de petits bagarres de clochers style Don Camillo et Pépone. Voilà. Je trouve qu'en étant à l'étranger, on a peut-être une vision extérieure et on est spectateur de ce qui se passe. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'unité et de solidarité surtout.
Puis étant à l'étranger, on regarde avec un certain recul. Et à la limite, de voir ce qui se passe en France, d'une certaine façon, ça nous fait mal. Et comme dit Bernadette, bon, même s'il y a un micro, quand on voit le bordel, voilà, c'est... Oui. J'ai entendu, par exemple, hier matin, ils interviewaient Sarkozy. Alors, attendez, là, il faut que je réfléchisse pour vous dire la connerie qu'il a dit. Il a parlé de la diminution de l'augmentation du chômage. Ça veut tout dire. Il faudrait mieux, à ce moment-là... avouer qu'en France, du chômage, il y en a encore plus que ce qu'ils annoncent. Hein. Ils sont même largement au-dessus de 10%. Alors pourquoi en France, j'allais dire chez eux, chez nous, pourquoi on est à plus de 10% de chômeurs, puis ici on est à 3,5% en Suisse. Bon, il y a des cantons qu'on a plus, il y a des cantons qu'on a moins, c'est clair. Mais ici on est à 3,5%. Hein. Je pense que c'est mieux géré, c'est tout. Ici, depuis la Confédération jusqu'à la Commune, c'est toujours la même structure et le même système. À la tête de la Confédération, vous avez un exécutif de 7 personnes. Autrement dit, il y en a 7 qui dirigent la Suisse. Hein, il y a 7 personnes, il n'y a pas une chier de puis un petit tas de ministres comme il y a en France. Hein, il y en a 7 et point final. Et dans les 7, il y en a un qui représente la Suisse, qui fait président de la Confédération. Mais c'est par tournus, comme ça ils ne se battent pas comme en ce moment-là. C'est par tournus et ça change tous les ans, chacun son tour. Vous arrivez, vous descendez au canton, c'est exactement la même chose. L'exécutif, c'est 7 personnes. Et vous descendez à la commune, c'est la même chose. L'exécutif, c'est 7 personnes. C'est pour ça que ça va bien, c'est tout. C'est pas une personne, c'est 7 personnes. Hein. Et toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que les 7 soient d'accord. Hein. Et après, il n'y a pas d'histoire. Et je pense que c'est là toute la différence.
Ce que je disais avant, l'unité.
Et à mon avis, hein, il y aura des surprises aux élections. Là. En Suisse, je suis à peu près certain que le vote sera à droite. Hein, la Suisse, les gens qui sont ici, le vote sera à droite.
Les Français de Suisse vont voter majoritairement à droite.
Ce bouc nain s'appelle Zottel. Et en Suisse, tout le monde sait qui il est.
France 24.
Certains l'adorent, d'autres le détestent.
10 octobre 2007.
Zottel est la mascotte de l'UDC, l'Union démocratique du centre, un parti politique suisse de la droite nationale, fréquemment qualifié de xénophobe. Pendant la campagne, Zottel est à la tête de tous les cortèges de l'UDC. Mais ceux qui font le plus scandale, ce sont ses amis les moutons, qui figurent sur l'affiche de campagne du parti. On y voit 3 moutons blancs sur un drapeau suisse. Un des moutons blancs boute hors du drapeau un mouton noir, avec ce slogan « Pour plus de sécurité ». L'UDC a fait de l'immigration son terreau électoral. Le parti propose notamment l'expulsion des criminels étrangers. De quoi le taxer de racisme, l'UDC se félicite plutôt d'avoir ouvert le débat.
Notre campagne est un succès. Notre affiche est la meilleure qui ait été faite depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons ainsi créé un débat.
Derrière pour voter. Ça.
Ah, votre matériel de vote.
Oui. Vous recevez tout à la maison, puis vous votez par vous mettez à la poste. Soit à la poste où il y a une boîte dans laquelle vous pouvez mettre ça. Et puis là, c'est les élections du Conseil d'État. Donc c'est pour le canton. Ici, tout passe par le peuple. Tout. Hein, c'est le peuple qui décide pour tout.
Là, au-dessus, il y a une affiche électorale pour l'UDC.
Ouais. Le nom, c'est Union démocrate du centre. Union démocratique du centre. Mais en fin de compte, l'UDC, il est à droite, quoi. C'est plutôt même. Bon. Ça fait un peu si vous. Ah, non, merde, c'est bon, on va à la maison.
Moi, j'habite de l'autre côté.
Là. On va passer par une toute petite route, là. Mais si vous voulez, l'UDC, celui qui a monté l'UDC, c'est un Suisse allemand, c'est Blocher. Allez, il était un peu comme le père Le Pen, lui. Hein. Attention, hein, c'était... Mais aujourd'hui, c'est le parti politique majoritaire en Suisse.
Majoritaire ?
Majoritaire.
Et c'est à peu près l'équivalent du FN en France ?
Maintenant, oui. Et depuis que c'est Marine Le Pen, je pense qu'on peut mettre la balance. Mais là, disons que c'est elle
Je pense qu'elle est à la tête d'un courant qui va aller grandissant. Hein. Faut pas rêver. Hein. Et par rapport à ici, bon, ben, maintenant on peut la comparer à l'UDC. Et on va passer sur un petit pont qui date des Romains. Mais il tient encore.
Et alors l'UDC, enfin, ils défendent quoi comme valeur?
La Suisse. C'est ce que j'apprécie. C'est vraiment des gens. Alors, ça, c'est des termes qui aujourd'hui en France ont perdu leur valeur. Et puis, en France, si vous êtes nationaliste, ah, c'est plus bien d'être nationaliste. C'est pas bien de soutenir son pays, de défendre son pays. Bon, ben, l'UDC, c'est des nationalistes, c'est tout. C'est des gens qui défendent leur pays. Je me cache pas que si je ne sais pas, si je dois voter, puis je connais pas, je vote UDC, fini, terminé. Au moins, c'est les seuls qui défendent la Suisse.
L'UDC, c'était eux aussi qui avaient fait cette campagne dont on avait parlé en France, nous, avec les moutons blancs et puis le mouton noir, non ?
Ça continue, hein. Ils ne sont pas arrêtés pour ça, hein. Puis ils ont raison. Ils ont raison.
Qu'est-ce que ça voulait dire, cette campagne ?
Ben, cette campagne, ça voulait dire que... Eux, ici, c'est pas la même mentalité qu'en France. Ici, d'abord, on a voté contre les minarets, hein, ici. On a voté contre les minarets. Toute l'Europe a semblé drôle. Puis après, toute l'Europe a dit que la Suisse avait raison et avait osé. Mais écoutez, si vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre, si vous allez dans un pays étranger, le pays a la gentillesse de vous accepter. Ben, ou vous vous intégrez, ou vous partez. Mais vous n'amenez pas vos coutumes, vos histoires, vos... non. Ici, les gens... Attention! C'est même pas comparable le nombre d'étrangers qu'il y a en Suisse par rapport à la France. C'est un des pays où il y a le plus d'étrangers au monde.
La Suisse ?
Ah oui, mais les gens sont gérés. La Suisse, sans les étrangers, elle pourrait pas tourner.
C'est ça aussi, ils ont la gentillesse de les accueillir, mais en même temps, ils en ont besoin.
Oui, mais ils les font travailler.
Hein. Alors, par exemple, pour revenir sur le mouton noir, vous, en tant qu'étranger, vous étiez aussi le mouton noir ?
Pas du tout. Non, non. Non, non, non. Les moutons noirs, c'était pas contre les étrangers, c'est contre une certaine catégorie d'étrangers.
Quelle catégorie alors ?
Ben, celle qui fait chier le monde en France. C'est celle-là, c'est tout. Et ici, ils se laissent pas faire. Et entre autres, l'UDC.
Mais c'est la... Enfin, qui fait chier, c'est...
Ouais, ben vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas... Mon voisin, il a son fils qui est dans une banque, ici, à Vevey. Il y en a une qui est venue au guichet, voilée, pour avoir de l'argent. Il a dit, madame, vous retirez votre voile. Vous retirez votre voile. Elle n'a pas voulu, dehors. Même si le fric avait à la banque, c'était à elle, mais ici c'est comme ça. Et je pense que c'est pour ça que ça va bien. Ah, là, ce qu'on sent, ça fait partie de la Suisse aussi, là.
Ah oui, ça sent.
Il purine. De temps en temps, ça sent la merde. Ah, c'est là que j'habite.
Ah, vous avez un drapeau suisse devant votre maison ?
On est suisse.
Un virage à droite sans précédent.
France 3.
Déjouant tous les pronostics, une écrasante majorité de Suisses, plus de 57%, a dit oui à l'interdiction de construire de nouveaux minarets.
29 octobre 2009.
Une victoire inattendue pour la droite populiste qui avait lancé ce référendum aux accents ouvertement racistes. La preuve, ces affiches du parti UDC représentant une femme voilée devant un drapeau suisse sur fond de minarets dressés comme des missiles.
Nous ne sommes pas contre la religion musulmane.
Walter Wobmann.
Mais nous sommes contre l'islamisme.
Conseiller UDC.
Ces gens-là ont le droit de pratiquer leur religion. Mais le développement des minarets, des muezzines et de la charia vont à l'encontre de notre société démocratique et de notre liberté.
Le gouvernement, les partis politiques et toutes les communautés religieuses avaient pourtant fait front contre cette initiative. Mais le résultat est là. Sur 26 cantons suisses, 4 seulement ont rejeté la proposition des extrémistes.
Ave, Ave Maria, das Gott und Maria.
Ici, il n'y a pas de route, pas d'autoroute, pas de ligne de chemin de fer, rien. Les oiseaux.
Une vue aussi imprenable sur la montagne, oh, le lac. C'est de la...
lierre.
Du lierre.
Si tout pousse. Tout pousse pour la bonne raison, c'est que c'est des... derrière, il y a des marais. Des marais de chaud là. Et puis, il y a de l'eau, il y a de l'humidité, puis il y a de la douceur. Je passe devant ?
Je vous en prie.
Et où ?
Ah !
Bonjour madame !
Oh là là, en plus vous avez la radio !
Enchantée !
Bonjour, on s'embrasse !
Si vous voulez.
Ça se coupe.
Voilà. Eh ben oui, chaleureux, monsieur Pontrieux, madame son épouse, vraiment très très sympa. On revient, alors là, ce que vous avez entendu là, c'était pas un muezzin, hein, j'espère que vous avez bien compris, c'était au contraire un Ave Maria. Oui, il y a une petite ressemblance, c'est vrai. Alors pour revenir un petit peu sur l'UDC, là, cette droite populiste, c'est vrai que ce parti reste la première formation politique du pays, mais elle a reculé un tout petit peu aux dernières élections de 2012, du printemps 2012, de 28,9 à 26,6. Mais enfin, ça reste un parti extrêmement important, le premier en Suisse. Alors voilà, on est reçu chaleureusement, enfin Charlotte surtout, mais enfin puisque on est tous là, ben on est champagne pour tout le monde.
Voilà. Ouf. Vous êtes chez des Champenois, exilés, hein. On est travailleurs immigrés, exilés, mais bon, l'exil n'est pas trop difficile à supporter. Oh. Puis dès l'instant qu'on a un peu de sirop.
Ça vient de chez vous ?
Oui, ça vient d'un petit village du Ménil-le-Huttier. C'est à quelques kilomètres d'Épernay. Un petit bled au bord de la Marne. Et mon épouse vient de Dormans. Donc on est les deux là-bas. Là maintenant, je vais vous expliquer comment on est arrivé ici. Si vous voulez, en rentrant de mon service militaire, on s'est mariés. Mes parents donc étaient charcutiers traiteurs. Et 1er janvier 64, j'ai repris la maison. Donc mon père m'a donné la maison, le fond. Au début, tout s'est bien passé. Et je l'ai tenu jusqu'en 70, 70, quoi, jusqu'au temps qu'on vienne ici. Mais, comme mes parents m'avaient envoyé un peu à l'école, je faisais toute ma comptabilité. Et j'ai fait une comparaison entre ma comptabilité et celle de mon père, 10 ans avant. Et j'avais des frais qui étaient multipliés par 16. Par exemple, c'était un camion, une petite camionnette pour faire les tournées, c'est pour faire la vente. Mm-hmm. Mon père, celle qu'il avait fait faire, agencé à l'époque, ben, il n'y avait pas des normes comme les normes qu'il y avait après, qui ont été pondues après, où il fallait que ce soit réfrigéré, gna gna gna, et puis tout un tas de trucs. Et moi, la camionnette, elle me coûtait 16 fois plus cher. Hein. Bon, il n'y avait pas que ça qui était augmenté. Et là... je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire? Et en 69, j'ai un apprenti qui avait été déclaré premier de la Marne, premier de la Champagne, troisième de France. Et il décorait, c'était le ministère du Travail, qu'il décorait de la médaille de bronze du ministère du Travail. Puis moi, j'avais la même en tant que maître d'apprentissage. Et j'en avais tellement marre, je voulais pas aller la chercher. Mais c'est ma femme qui me dit, mais vas-y, ça se faisait à Reims. Me dit, vas-y, bon, j'y suis allé. Ils ont remis la médaille au gamin, ils m'ont remis la médaille. Et après, champagne, à la suite de cette remise de médaille, le président de la chambre de commerce, Champagne-Ardenne, est venu vers moi et m'a dit, monsieur Poutrieux, la prochaine sera une médaille d'argent, une médaille d'or. J'ai dit, il n'y aura ni l'une ni l'autre, j'arrête. Il dit, comment ça ? Puis je lui ai expliqué la comparaison que j'avais fait avec la comptabilité de mon père. Il m'a pris à part. Il m'a dit, c'est vous qui avez raison. Il m'a dit, on a des statistiques. 69, hein, on a des statistiques. 50% du petit commerce et de l'artisanat français doit disparaître dans les 10 ans à venir. Et là, personne n'en parlait. Hein. Mais c'était un phénomène de société. C'est pas de la faute à la droite, de la faute à la gauche, la faute... C'était un phénomène de société. Et tout ça venait essentiellement par l'arrivée de la grande distribution. Dans cette région où on était, en 69, il s'est ouvert 11 grandes surfaces, entre Château-Thierry,
Reims et Pernay, 11 grandes surfaces. Hein, Chalon, c'est venu après. Ah ouais, Chalon, c'est venu après. 11 grandes surfaces. Alors, ça s'appelait Mammouth, ça s'appelait Radar, ça s'appelait, ça n'avait plus les noms que ça a aujourd'hui, quoi. Mais 11 grandes surfaces. Et ça a changé complètement la physionomie du petit commerce. Et là, président de la Champagne-Ardenne, c'était M. Dougou, je me souviens, quand il m'a dit ça, ouf, il m'aurait mis une baffe, c'était pas pire. Là. Je suis rentré. J'étais écœuré. On a discuté avec mon épouse, il faut faire quelque chose, on ne va pas rester comme ça. Puis finalement, on a dit, bon, on arrête. Hein. J'ai dit au père, on retourne chez le notaire et je te rends tout. J'ai tout rendu à mon père. Et on est parti, mon épouse, les deux gamines, chacun deux valises. Basta, fini, terminé. Et on est reparti à zéro, c'est comme ça qu'on a atterri ici. Voilà. Puis un peu aujourd'hui, bon, on est là, on a une maison, on a travaillé tous les deux.
On a fait 35 heures par semaine.
Vous aussi, vous travaillez, hein, madame?
L'hôtel où je travaillais, ils l'ont engagé ici, à leur hôtel à Montreux, où elle s'occupait, elle était responsable de la piscine. Et c'est comme ça qu'on a commencé.
On s'est intégré. On s'est intégré. Et puis ben, aujourd'hui, je ne sais pas si on a un peu l'accent suisse, mais on a perdu un peu l'accent champenois.
Alors à votre bonne santé, bienvenue.
Vous aussi.
Santé.
Santé.
Là, monsieur Poutry, on se trouve chez vous, dans votre maison. Donc ça fait 40 ans que vous êtes installé ici.
42 ans en Suisse et 32 ans dans cette maison.
Mais il n'y a pas des choses qui vous manquent en France quand même?
Non, non. À part côté de la bouffe, des fois. Hein, manger des andouillettes, des pieds panés, mais c'est tout.
Mais qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le mode de vie ici en Suisse par rapport à la France?
Alors, c'est le calme, la tranquillité. Tout est tracé. On sait exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire.
C'est droit, c'est net, c'est clair. On se sent plus en sécurité. Et pour tout. Les gens sont disciplinés. Donc c'est sécurisant,
Les problèmes qu'on a ici sur le plan de la sécurité, ou de l'insécurité, la majorité viennent de l'autre côté, viennent depuis la France. C'est des bandes qui viennent de Lyon, qui viennent de hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, il y a un peu plus d'un an, là, 18 mois, c'était sur le canton de Fribourg, deux gamins qui venaient voler des voitures en Suisse, hein. Mais entre autres, là, ils en avaient volé une, et ils sont passés à Berne, les flics n'ont pas pu les arrêter, hein, parce que... Ils traçaient, ils ont prévenu les flics du canton de Fribourg. À l'entrée d'un tunnel, alors ici, ils mégotent pas, hein, la herse. Ils ont tiré la herse. Hein. C'est un truc avec des clous, là, des picots grands comme ça, là, qui rentrent dans les pneus, là. Vous restez sur place. Hein. Bon, ils avaient tiré la herse, mais ils avaient laissé pour une place, pour les voitures, quand même, pas bloquer la circulation. C'est merdeux. Ils sont arrivés. Quand ils ont vu la herse, un coup de volant, ils ont passé par la partie où il n'y avait pas la herse. Là, les flics, pas de détails. Hein. Il y en a un, il a pris une balle en pleine tête. Hein, bah, c'est clair. Forcément que la voiture, elle s'est arrêtée. Celui qui était dedans, il s'est sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, je ne sais pas, un mois et demi après, toute la Smala est venue de Lyon, hein, avec la mère qui poussait des pleurs. Ils viennent. Hein, c'est une équipe d'aide Babeloued, là. Ils sont venus avec toute la famille, je sais pas, 15 ou 20, avec des fleurs pour mettre des fleurs à l'endroit où le gamin avait été tué. Bon, je vais vous dire comment ça se passe en Suisse. Alors, ils ont posé leur truc et tout, ils se sont même pas occupés. Ils ont laissé faire. Après, ils sont remontés dans la voiture, ils sont partis. Arrivé à Bardonnay, la douane de Genève, là, les douaniers. Enfin, il y avait les flics qui étaient venus. Ils ont vérifié tout le monde. Puis dedans, il y avait celui qui était avec, comme c'était des jumeaux, donc ils se ressemblaient. Ils ont dit, vous, monsieur, vous descendez. La mère, mais il n'a rien fait. Vous descendez, maintenant les autres, vous pouvez partir. Et depuis, je crois qu'il est au frais. Là. Ici, c'est comme ça. En parlant de ça, j'ai dit, le flic, il a fait qu'une connerie. Pas avoir dégommé les deux.
Mmh. Hein? Mais il n'y a pas eu de procès d'intenté pour le meurtre d'un enfant.
C'est pas un meurtre. Vous appelez ça un meurtre?
C'était des bons gamins, ils faisaient que voler des voitures.
Non, non, on peut les arrêter, les mettre en prison, on n'est pas obligé de tuer des gens.
Même pas les elles sont pleines de prison.
Ça, c'est le phénomène en France. Moi, avec ceux-là, je discute pas. Ça, c'est clair.
La famille du jeune homme tué par un policier sur l'autoroute 1 s'exprime. Elle est venue de Vaux-en-Velin pour se recueillir sur les lieux. Témoignage exclusif recueilli par Isabelle Fion.
Est-ce que l'enquête est vraiment fiable? Est-ce que c'est un assassiné qui est déguisé?
Pour les proches du jeune homme, c'est une évidence. Il n'a pas pu être mêlé à un vol de voiture.
7 coups tirés sur la voiture, 4 balles touchent le véhicule, une seule traverse le pare-brise et blesse mortellement le passager. Ce Français de 18 ans décède quelques minutes plus tard dans le tunnel de Seva. Sa famille est arrivée hier soir à Fribourg. C'est le juge d'instruction chargé de l'affaire, Olivier Thormann, qui l'a reçu.
Ils n'étaient pas armés, c'est peut-être ils ont fait une connerie. Ils ont volé une voiture, 2 voitures, peu importe le nombre des voitures. Mais comment ils peuvent tirer 7 fois? Mais à 7 reprises, vous imaginez sur 2 enfants.
La justice, oui. La justice, oui.
Écho d'une manif pour ce jeune homme, une manif à Vaux-en-Velin. Il faut savoir que le Front National tente de se rapprocher, même se rapproche du parti UDC, pour lequel Marine Le Pen exprime beaucoup d'admiration et donc essaye tous les rapprochements possibles. Voilà, on continue cette balade avec Jean-Jacques Poutrieux et son épouse, des Français donc qui vivent depuis 40 ans en Suisse, où ils sont vraiment heureux.
Nous, ici, on a un peu ce problème, ici, sur la rivière Vaudoise, hein, on a un peu le problème, c'est que d'ici Genève, c'est quoi? C'est 50 minutes, mais de l'autre côté, c'est 20 minutes, et puis vous êtes en France, hein. Passant par le tour du lac, l'autre côté. 20 minutes, 25 minutes, vous êtes en France. Alors, c'est clair que... Un exemple. Je rentre, j'arrive, ici. Arlette me dit, t'as pas croisé une voiture? Et puis, si, un gros 4x4 noir. Ouais. Ah, elle me dit, c'est drôle, c'est des gens qui sont des jeunes, le bon numéro, 9-3, parce qu'ils viennent en repérage, hein, qui prétendaient qu'ils faisaient une exposition à Genève et puis qu'ils avaient des tapis à vendre. Ouh, bon. Marche arrière, je redescends. Je les cherche dans Chernay, rien. Je monte par Sonzier, le petit bled où on est arrivé, là. Hein. Sonzier, rien. Je remonte au-dessus, Chambly, rien. Ah, tout d'un coup, je les vois redescendre d'un petit chemin. Ils repéraient toutes les zones villes. Parce qu'après, ils donnent ça aux autres pour les cambriolages. Hein. Toutes les zones villes. Et puis, et comme un fait exprès, j'étais devant. Je me suis garé. Ils sont passés devant moi. Hop, ils se sont arrêtés dans une zone ville en haut, puis après dans une zone ville en dessous. Alors, j'ai eu le temps de prendre le numéro. Je suis rentré, je téléphonais aux flics à Montreux. J'ai dit voilà, j'ai expliqué, une voiture noire, des jeunes qui prétendent, etc. J'ai expliqué exactement ce que c'était. Merci monsieur. C'était le lundi. Le mercredi, j'ai vu sur le journal, ils avaient été arrêtés, transférés à Lausanne. Aussitôt, ils ont envoyé une patrouille. Et puis la patrouille qui les ont arrêtés, ils les ont arrêtés pour vente illicite, hein, parce que... fallait un motif.
Ah, ils n'avaient pas cambriolé.
Non, mais pour vente illicite. Et puis après, ils les envoyaient à Lausanne. Puis à Lausanne, là, c'est le canton. Eux, ils se mettent en relation avec Paris et tout. Ils ont les machins. Et puis,
il est boucle. C'était pas des
pires. C'en est qui cherchaient à cambrioler.
Mais ça, c'est très suisse, par exemple, de quand on repère quelque chose d'anormal, de tout de suite prévenir.
C'est sûr.
Hein? Dès qu'il y a quelque chose de suspect, on le dénonce à la police.
Ah oui,
c'est clair.
Si c'est rien, s'il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir quelque chose. Donc là, on est un quartier avec environ 20 villas. C'est le quartier des yeux ouverts, si on peut dire. Chacun contrôle tout le monde. On part en vacances, on le dit aux voisins, attention, on part en vacances, tu viens faire un tour à la maison, tu viens regarder. Les voisins ont la clé de chez nous, nous on a la clé de chez eux. Les autres voisins savent aussi, ils viennent faire un tour, nous vice-versa. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ou des gens qu'on ne connaît pas qui se promènent dans notre quartier, où on va leur demander qu'est-ce que vous faites là, où on contrôle où ils vont. Mais on se contrôle l'un l'autre. C'est pas méchant, ça n'a rien de... Mais au moins, c'est une sécurité aussi. C'est... On en revient toujours à la sécurité que je vous ai dit. On a une alarme aussi. Mais vous savez, le contrôle visuel, le contrôle des gens, le contrôle humain est quand même autre. C'est quand même encore plus sécurisant. Puis en plus...
C'est pas un pays en guerre, enfin, il n'y a pas de...
Non, mais on est... Non, c'est pas en guerre, mais comment je vous dirais...
On se protège.
On se protège. Mais la Suisse est un petit pays, ben ils se protègent. On a des abris anti-atomiques, ça vous savez.
Moi j'ai un abri ici. Hein.
Vous avez un abri ici, anti-atomique ?
Oui. Chaque villa a son abri anti-atomique. Mais on se protège. Enfin, c'est pas qu'on a peur de quoi que ce soit, mais il pourrait arriver quoi. On a une sécurité. On est en sécurité, mais on se met aussi en sécurité.
Les abris anti-atomiques, c'est pas parce qu'il va y avoir une guerre. Mais il peut y avoir, je sais pas, une centrale qui pète sur la France. Il y a un nuage qui passe ici. Il suffit de s'enfermer pendant 48 heures. Hein, on met ce qu'il faut dedans et puis on passe là-dedans pendant 48 heures et puis fini, terminé. Puis on sort après.
Voilà.
C'est la prévention aussi. Pour tout. L'été, on vit ici.
Ah, sur la véranda. Vous avez toute une guirlande avec des drapeaux suisses et pas un drapeau français alors.
Non, regardez, on a le drapeau suisse là-bas. Mais on est en Suisse.
Oui, mais vous êtes français, non?
Oui, mais on est suisse. Nous, on était tellement heureux d'être suisse qu'on a mis le drapeau suisse.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui vont chercher à venir si jamais la gauche est élue?
C'est déjà fait. Ouais, il y en a plein qui viennent en ce moment. C'est la débâcle même. De toute façon, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas à venir ici. Hein. Mais il y a des moments où il y a plus. Ce moment, c'est l'invasion. Hein.
Pourquoi, à votre avis?
Ils ont peur. Ils ont peur de ce qui va se passer sur France. Et tout ce qu'ils promettent, les autres. Là.
Augmentation des impôts?
Certainement. Hein. Il y a un truc que je devrais vous raconter. Hein. C'est... Il y a quelques temps de ça. J'ai une amie dont son mari travaille avec moi. Elle, Gordana, est serbe. Et elle comprend bien le français. Elle a de la peine à s'exprimer en français. Et puis son mari est décédé. Puis quand elle a besoin d'aller à la banque, elle me demande d'aller avec elle. Et pour tout vous dire, on est descendu à l'UBS. Puis là, à l'UBS, parce que c'est...
Donc, l'Union des banques suisses.
Ouais. Elle a son argent à l'UBS, c'était pour voir ce qu'elle voulait en faire, comment elle voulait la placer, etc., pour discuter. Et elle avait plus ou moins affaire toujours au même gars, au même banquier. Puis on attendait dans une pièce, là, dans un salon. Puis tout d'un coup, il y en arrive deux. Alors, le gars que je connaissais, puis il y en arrive un autre. On a parlé d'une chose et d'une autre. Et c'est à l'époque où Eric Wirtz, avait soi-disant des listes. Hein?
La liste des 3000 exilés fiscaux qui devaient se rapatrier en France. Ils avaient mis en place une cellule de dégrisement pour que les gens se régularisent en France.
Voilà. Et celui qui était avec celui que je connaissais m'a dit, ce poutrieux, celui-là, quand ça va se retourner contre lui, il va être mal.
Hein. Celui-là, c'est qui?
Wirtz. Il m'a dit, il va être mal. Ah, j'ai dit, pourquoi? Il me dit, lui, je l'ai vu arriver, avec des valises de pognon à Sarkozy. C'est lui qui les transportait. Alors il me dit, le jour que ça va se retourner contre lui, oh, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Quelques mois après, qu'il s'est fait foutre dehors, qu'il a eu de la peine, là.
Mais alors, Sarkozy aurait du fric planqué ici?
Non, pas aurait. À l'époque, c'était le fric de l'UMP, là. Hein? Non, pas aurait. Faut pas raconter. Faut pas mettre de conditionnel dans tout ça.
L'argent que Madame Bettencourt ou les autres lui donnent pour financer le parti?
Oui, entre autres. Certainement. Je sais pas d'où ça venait. Hein? Mais lui, il arrivait avec des valises de pognon, là.
Placé dans les banques suisses?
À l'UBS. Tout simplement, parce que lui est à l'UBA. C'est lui qui l'a réceptionné. C'était pas du bidon.
Ben non, c'est pas du bidon. La preuve, c'est que c'est vrai. Ça peut pas être autrement. Ben ça, c'est un scoop. Hein. C'est des vraies infos de première main que nous donne Jean-Jacques Poutrier. Au sujet de l'UBS, on va s'intéresser à cette banque suisse dans la semaine prochaine, en consacrant pas mal de temps à l'évasion fiscale. On en a déjà parlé dans les reportages précédents depuis la Suisse, mais là, ça va être depuis Paris et comment cette banque s'est implantée en France et comment elle a pratiqué l'évasion fiscale. Ce fonctionnement est assez extraordinaire et on verra comment on tient là peut-être des pistes, des suggestions pour reconsidérer la question de la dette publique, l'évasion fiscale. C'est un phénomène énorme et qui, là, peut-être dans les semaines ou temps qui viennent, en tout cas, va atteindre probablement des couches beaucoup plus larges de l'opinion, va réaliser ce que c'est que cette évasion fiscale, ce que sont toujours les paradis fiscaux, en dépit des rodomontades et des effets d'annonce. Mais on est toujours avec Jean-Jacques Poutrieux et son épouse, vous avez vu comme notre Charlotte Perry est stupéfaite de la présence d'abris anti-atomiques en France, alors que c'est ça la solution. C'est ça qu'on devrait faire en France. En Suisse, je veux dire. C'est ça qu'on devrait faire en France. La question du nucléaire, etc., serait de construire des abris atomiques absolument partout en France. On n'aurait plus rien à craindre si jamais il y a une centrale qui pète. On reste 2 jours dans notre abri anti-atomique et puis 2 jours après, on sort. C'est ce qui s'est passé en Albanie. En Albanie, vous avez 700 000 abris comme ça qui ont été construits au temps du grand Everodja. Mais là, on n'est pas en Albanie, on est toujours avec les sympathiques Jean-Jacques Poutrieux et Arlette, son épouse.
Là, on est descendu dans votre sous-sol. Là, c'est votre buanderie.
Bon, j'ai une cave aussi.
Vous avez une cave. Là, c'est la buanderie. Ah, attendez. Il y a une porte qui doit faire quoi, 40 cm d'épaisseur?
Oh, j'en sais rien, mais elle est lourde. Hein. Ça pèse un cheval.
Oh, c'est énorme, mais c'est un bunker.
Oui, c'est un bunker. Ah, ouais, c'est clair, c'est une embryée atomique. Mais ce qu'on fait tous, on remet une autre porte. Pour pas celle-ci, on n'y touche jamais. Hein.
Ah oui, puis vous avez mis une petite porte en bois, quoi.
Une porte comme ça, oui.
Cette porte, elle est impressionnante. Puis avec des c'est quoi ça? C'est un des gros énormes boulons, là.
C'est pour la fermer. Ça, c'est la poignée pour la former. Ça vient là-dedans.
Bon, vous avez suspendu votre poubelle, là.
Oui.
Puis votre casquette.
Pour moi, ça sert à quelque chose, comme ça. Mais il y a une fenêtre, pareil.
Ah oui, qui est épaisse de bien 40 cm.
Et puis, donc ça, c'est un système pour filtrer l'air.
Parce qu'il
s'agit pas d'être enfermé. Donc il faut aussi respirer. Donc on prend l'air dehors, puis il y a des filtres. Et puis, alors c'est électrique. Et puis s'il n'y a plus d'électricité, ben, il y a une manivelle. Il y en a un qui donne la manivelle. Ça m'a coûté 10 000 euros, quoi, en gros. Quoi.
10 000 euros pour un abri atomique qui servira peut-être jamais.
Pour transformer la pièce en abri atomique.
Et c'est obligatoire?
Obligatoire. Ici, moi, j'ai fait ce qu'on appelle... Mais
donc là, on rentre dans une autre pièce.
C'est un carnotze. Uniquement pour boire un verre. Là, si vous avez un copain qui vient, comme ça on n'ennuie pas la femme en haut, et j'ai même là pour le pastis, j'ai la flotte. Hein.
Et cette toute petite pièce, c'est très suisse, quoi, tout est en bois.
Ça, c'est en Suisse. Ah oui, tout est en bois.
Comme dans un chalet, quoi.
Ouais,
et puis il y a aussi tous vos trophées. C'est vos trophées, ça?
J'ai fait des élevages de canaris. Puis j'ai été champion suisse. Champion suisse, hein, Schweizermeister. J'avais le plus beau rouge et le plus beau jaune de toute la Suisse. J'ai eu des canaris, ouais, mais j'en avais l'été, j'en avais 250, 300.
Heureux comme en Suisse, c'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Jean-Jacques Poutrieux et à sa femme Arlette. qu'est-ce qui doit nous interroger? Le bruit des bottes ou le silence des pantoufles? Merci à tous. Rendez-vous mercredi prochain, 2 mai, pour le Conseil des ministres du Mirac. Vous vous souvenez le Mirac? Au théâtre du Grand Parquet à Paris, dans le 18e arrondissement. C'est 20 bis rue du département. Dans le 18e, ce sera à partir de 19h avec tous les ministères de la culture, de l'écologie, de l'enseignement supérieur. Sauf que ce sera Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, ministre de la réforme de l'État. Il y aura beaucoup de Suzanne Georges au ministère des Affaires étrangères. Vous vous souvenez peut-être de cette série qu'on retrouvera là en chair et en os. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. J'y suis. Vous pouvez également nous réécouter sur le site labas.org, la-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Maxime Anna et Lydvine Caron, Bertrand Chompton et Franck Allerer ont réalisé cette émission. Marina Touillez nous assiste et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Exclusivité Radio France, Jacques Vendroux.
Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, les deux candidats à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy et François Hollande, parleront sport. Ils apprécient, ils connaissent, ils aiment. Ce sera ce week-end sur France Inter, France Info et France Bleu.
Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. On va se retrouver lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Jérôme Kerviel confirme, l'ancien trader de la Société Générale lourdement condamné pour une perte de 5 milliards d'euros en 2008 annonce cet après-midi le dépôt d'une nouvelle plainte contre la banque. Une plainte pour faux et usage de faux. Son procès en appel doit lui avoir lieu en juin prochain. À J-9 du second tour de la présidentielle, le syndicat de la magistrature classé à gauche appelle aujourd'hui à voter contre Nicolas Sarkozy afin, dit-il, de ne pas le laisser récidiver. Dans un communiqué, le SM écrit que Nicolas Sarkozy annonçait une république irréprochable, mais il n'a fait, dit le syndicat, que bafouer l'indépendance de la justice. Les salariés de la centrale nucléaire de Fessenheim, eux, se rappellent aujourd'hui au bon souvenir de François Hollande. Le candidat socialiste qui s'est engagé à fermer le site s'il est élu avait promis de les rencontrer avant le second tour. Les salariés lui ont envoyé une lettre la semaine dernière. S'il ne vient pas, disent-ils, peut-être encouragerons-nous d'autres actions comme de s'inviter par exemple à des réunions publiques. Ce soir, les deux candidats en tout cas battent la campagne. Nicolas Sarkozy est à Dijon. Après un passage au printemps de Bourges où le groupe toulousain Zebda lui a porté son soutien, François Hollande, lui, sera ce soir à Limoges. Mais qui sera aux côtés du candidat socialiste dimanche au meeting de Bercy à Paris? Le Parti socialiste a invité Jean-Luc Mélenchon, mais fidèle à sa stratégie, explique Clémentine Autain cet après-midi. Le président du Front de Gauche ne s'y rendra pas. D'ailleurs, il l'avait dit ce matin sur France Inter, ce serait contre-performant. Deux explosions à Damas aujourd'hui. Un attentat suicide ce matin près d'une mosquée. Bilan 11 morts et 28 blessés. L'autre explosion a eu lieu dans la banlieue de la capitale syrienne, mais aucun bilan n'a été donné. Les violences continuent donc malgré le cessez-le-feu, de même que les manifestations ce vendredi, jour de prière dans le monde musulman. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plusieurs dizaines de milliers de personnes hostiles au régime de Bachar el-Assad sont descendues dans la rue encore aujourd'hui. 6 personnes ont été tuées lors de ces rassemblements. En Ukraine, ce sont 27 personnes qui, elles, ont été blessées dans une série de 4 explosions à Dnipropetrovsk, dans le centre du pays. Les bombes étaient dissimulées dans des poubelles, dans des lieux très fréquentés de la ville. À 6 semaines du début de l'Euro de foot, voilà qui pose la question de la sécurité dans le pays. Une agence du LCL de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, a été la cible aujourd'hui d'une attaque à la voiture Bélier. Les auteurs du vol ont réussi à prendre la fuite, mais sans butin. L'or pour Hugo Legrand au championnat d'Europe de judo. Le Français a décroché cet après-midi en Russie son premier titre international majeur. Gevry Zemanel conserve son titre de championne d'Europe de judo. La Française a battu en finale cet après-midi l'Israélienne Yarden Gerbi dans la catégorie des moins de 63 kilos. L'autre Française, Clarisse Agbenienou, a elle décroché le bronze, toujours chez les moins de 63 kilos. Vous écoutez France Inter, presque 16h03.
Interception.
Interception, le magazine de reportage de France Inter, nous propose chaque dimanche un voyage sonore de 45 minutes à travers l'actualité, en France et à l'étranger.
Pascal Dervieux.
C'est une chance exceptionnelle. Pendant plusieurs jours, une équipe d'interception a suivi le groupe musical Touareg Tinariwen en tournée en France, alors que la rébellion qu'il soutient prenait le contrôle du nord du Mali.
Interception, tous les dimanches à 9h. France Inter. La différence.
Oh la chance, il est à Bourges. Vous êtes là,
Laetitia Didier Gaillet, ouais. J'ai froid dedans parce que vous n'êtes pas avec moi.
Oh, j'adore quand vous me dites ça.
Vous allez bien?
Ouais.
Vous savez que je suis depuis ce matin dans cette bulle à l'intérieur donc du printemps de Bourges avec mon ami Benoît Gégou. Nous tenons la maison, hein. Et donc il y a beaucoup de monde qui passe, mais vous n'êtes pas là.
Ah bah
alors
ouais.
Il y a Alex Baupin, il y a Lescope, il y a Arthur H avec moi.
Oh, c'est
et
pas
même
mal non plus quand même.
Un Daniel Colling, un chef avec nous. Bon, vous restez avec nous et on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
Ça marche Didier, allez bonne émission.
La musique donne sur France Inter.
France Inter en tout cas est arrivé sur la route des vacances, est arrivé à Bourges avec Claude Villers et l'équipe de Marche ou Rêve. Ils sont à la Maison de la Culture où ils présentent à partir de mercredi et jusqu'à dimanche le printemps de Bourges. Un printemps qui est celui de la chanson française. Un printemps qui fait naturellement place aux nouveaux venus dans la chanson, mais aussi aux aînés. Claude Villers, tout va bien à Bourges ?
Très très bien, merci.
Alors comment se passe cette opération dans différents points de la ville ?
C'est cela, c'est-à-dire qu'il y a un peu partout à travers la ville, les gens de Bourges le savent maintenant, il y a des grandes affiches, de grandes banderoles, et puis un fléchage très bien fait, ça je dis ça pour ceux qui viendraient des environs de Bourges, et qui indique les différents lieux où vont se dérouler des spectacles, des rencontres, des débats, des ateliers, du cinéma, des spectacles pour enfants, des expositions. Et alors, bien sûr, il y a surtout des chanteurs, beaucoup de chanteurs, ils vont commencer à arriver mercredi. Il y a d'une part ceux que l'on appelle les nouveaux chanteurs, il y a un peu la nouvelle chanson comme il y a le nouveau cinéma. Et puis alors une grande surprise, vendredi, c'est la rentrée de Charles Trenet sous le chapiteau. Et pour faire plaisir à ce grand aîné et à ce grand pionnier de la chanson un peu différente, disons, car il était révolutionnaire à son époque, en première partie, certains de ces jeunes chanteurs se sont rassemblés sous le nom d'un groupe que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle les Fous Chantants, et qui réunit Jacques Higelin, Lenny Escudero, Yvan Dautin, Jean-Yves Lullet, Alain Meillant, Fon Eval, et chacun va chanter sa chanson de Trenet pour rendre hommage à Trenet, et puis aussi chanter des chansons ensemble, avec, disons, des arrangements un peu particuliers.
Merci Claude Villers, il fait beau à Bourges ?
Et il pleut.
Daniel Colling, nous sommes en 1977 sur France Inter, ça ne nous rajeunit pas ?
C'est émouvant. Hein.
C'est vrai ?
C'est émouvant et à la fois, première constatation, la fidélité que nous avons le printemps avec France Inter.
C'est vrai. 1977, donc c'est l'année de la création du printemps de Bourges. À l'époque, c'est l'histoire d'une association, écoute s'il pleut, déterminée à encourager une autre vision de la chanson. Le but avoué est de, je vous cite, « sortir des sentiers battus de la pollution décibélienne, d'aller à contre-courant de ce que diffusent les médias, le rock sourd ou les niaiseries de la variété clo-clo ».
C'est vrai. À l'époque, il y avait que 3 chaînes de télé et 3 radios. Et concernant la télévision, il y avait 2 émissions célèbres de variété qui étaient Les Carpentiers et Guy Lux, qui diffusaient en boucle, comment vous dire, les Dalida, Joe Dassin et autres C'est Jérôme du moment. Alors qu'il y avait une poussée créative d'autres artistes qui voulaient surtout pas se mêler avec ces systèmes de promotion, qui naissaient, un petit peu underground, qui travaillaient dans les MJC. J'en ai réuni dans mon agence. D'ailleurs, à l'époque, j'avais réuni dans mon agence 5 ou 6 artistes absolument inconnus du grand public, qui étaient Higelin, Lavillier, Couture, Renaud et Thiéphaine. Ouais. Et donc j'ai eu l'idée à un moment d'essayer de donner un coup de projecteur en spectacle vivant qui était un petit peu l'idée de créer ce festival à Bourges. Voilà.
Presque 40 ans plus tard, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui à Bourges, Daniel Colling ?
Bah, différent à la fois tout, sauf peut-être l'identité du printemps. Tout au sens du public, des artistes. Je rappelle que l'année dernière, 90% du public n'était pas né en 77. Ça interpelle quand même. Et qu'on essayait d'être fidèle au moins à notre identité qui consistait à essayer de toujours présenter les nouvelles expressions, les nouveaux artistes. Et j'allais dire, le public, donc jeune, a suivi jusqu'à maintenant.
J'ai l'impression en plus que cette année, vous l'avez d'ailleurs dit assez souvent, vous vous passez entre guillemets des têtes d'affiche pour revenir un petit peu aux fondamentaux, que ce soit dans la chanson d'expression francophone, oui, ou même la pop internationale, puisqu'on a cette année des, ce que je disais d'ailleurs ce matin, hein, c'est la chasse à une certaine élite de la chanson, et on découvre peut-être ce qui sera une nouvelle élite dans quelques années.
Oui, on a un festival qui est de plus en plus, qui offre de plus en plus d'artistes à découvrir, qui sont pas seulement des débutants, hein. Nous avons des salles où on présente pour la première fois certains artistes américains, notamment ce fameux 22. C'est vrai, mais on n'est pas non plus. On a eu depuis 77 d'autres festivals se sont créés célèbres, les Franco, les Eurocaennes. Mais nous sommes pas un festival d'été avec une course au remplissage avec les grandes stars et les gros cachets. J'allais presque dire, on était contraints d'être fidèles à notre identité dans des salles plus petites, de constituer des plateaux. Bref, en un mot, de jouer plus l'artistique. Et cette année plus que jamais, on a pris des risques artistiques.
Nous jouons la carte artistique sur France Inter au quotidien et dans cette émission, puisque à côté de vous, il y a Lescope, il y a Alex Baupin et il y a Arthur H qui était en concert hier soir. Ma foi, que vous dire, c'était Manchester à Bourges. On écoute tout de suite Babalove, Arthur H.
Tu baratines des paraboles de splendides désordres.